Bonjour et bienvenue à tous. Tour à tour, le fou effraie, le fou amuse, le fou inquiète, le fou fascine. Mais à l'heure où la toute dernière réforme de la psychiatrie tend à l'enfermer un peu plus encore, à dresser un mur un peu plus haut, un peu plus épais entre la société des gens dits civilisés et ceux dont la structure mentale achoppe à la manière d'un diamant qui tressaute à la lecture du sillon d'un disque, le monde du spectacle s'empare de tous côtés de cette matière riche et douloureuse qu'est la représentation de la folie. De la danse au cirque, du théâtre à la chorégraphie, c'est l'ensemble des espaces scéniques qui sont mis à contribution pour témoigner, pour rendre compte, pour rappeler aux instances dirigeantes que, comme l'écrivait Bonafé, on juge du degré de civilisation d'une société à la manière dont elle traite ses fous. La représentation de la folie est-elle devenue un acte politique nécessaire? Peut-elle s'affranchir de sa dimension sociale? Le fou, figure universelle de l'opprimé, quel espace artistique ouvre-t-il? Voilà quelques-unes des questions que nous allons aborder ce midi avec nos invités. Angela Laurier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes danseuse, contorsionniste et chorégraphe. Vous avez monté « J'aimerais pouvoir rire », présenté cette année au Festival Montpellier Danse, une pièce que vous avez écrite et interprétée avec votre frère qui souffre de schizophrénie. Arnaud Denis, bonjour.
Bonjour.
Vous mettez en scène et vous interprétez en ce moment Autour de la folie, un spectacle composé de plusieurs textes d'auteurs classiques et de musique. C'est au théâtre du Lucernaire à Paris. Madicelle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes danseur et comédien. Vous avez endossé pendant 8 ans le rôle d'un autiste dans la création de D'un monde à l'autre de Bertrand Giampietri. Et Jean-Christophe Dolé, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit et mis en scène Abiphila et Léponex, prix du public ADMI au Festival d'Avignon l'an passé, une pièce sur 4 patients dont les discours se croisent dans un hôpital.
Faudrait que j'aille à la campagne, moi ça me plairait bien, j'aime tellement les fleurs, pour leur arracher les pétales.
La folie, bien sûr, est chargée d'un formidable potentiel d'inquiétude. Elle est perçue comme profondément sauvage et meurtrière, mais la raison qui nous en défend, elle n'est pas moins redoutée et redoutable. C'est une figure au glaive, un ange sans pitié, qui frappe l'innocence molle et offerte de la folie. Maupassant l'a inventé. En l'inventant, je crois que Maupassant a obéi probablement à une très vieille, à une très profonde loi de l'imagination. Cette loi, c'est que la folie retrouve les formes les plus archaïques, les plus anciennes, les plus sauvages de l'existence humaine.
Monsieur Habitude, Monsieur Manie, Monsieur Dégoût, Monsieur Colique, Monsieur Crampe.
Lorsqu'on a pu approcher Antonin Artaud, on s'aperçoit que loin d'être une annulation de toutes les valeurs humaines, la folie est une sorte de révélateur de vérité extrêmement importante.
Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others aren't so bold.
Vous avez pu entendre dans l'ordre ou dans le désordre, suivant le sens dans lequel votre cerveau tourne, Francis Blanche, Michel Foucault, Antonin Artaud ou Daniel Johnson. Est-ce que ce sont des textes, des auteurs dont on s'inspire, que l'on va fréquenter quand on commence à avoir, à développer un projet artistique ou un projet scénographique autour de la folie? Messieurs, dames, qui veut ouvrir le bal?
Moi, je veux bien.
Angela Laurier.
Je me suis rapprochée. En fait, je voulais comprendre au début de la maladie de mon frère. Quand j'ai voulu essayer de comprendre, je le visitais en psychiatrie. Je lisais beaucoup sur la psychiatrie. C'est comme ça que j'ai découvert cet univers. Et oui, ça m'a inspiré beaucoup.
Arnaud Denis, vous qui avez récupéré un certain nombre de textes d'auteurs classiques autour de la folie, vous vous êtes nourri au-delà de ces seuls textes?
Absolument, disons que c'est toute une recherche. Il y a le mimétisme, par exemple, puisque je me suis inspiré de personnes que j'ai pu observer autour de moi. Mais au point de vue des textes, dans le spectacle que je joue, j'ai tenu à représenter des auteurs, des textes un peu moins connus. C'est vrai que quand on fait un spectacle sur la folie, difficile de faire la passe sur Artaud, par exemple, où il y aurait pu avoir les carnets de Nijinsky, par exemple, qui sont un témoignage fabuleux de la folie écrite. Mais j'ai choisi des textes qui sont moins connus. Par exemple, Mémoire d'un fou, de Flaubert, qu'on connaît très peu, puisque c'est un texte qu'il a écrit à 19 ans, qui est un texte fougueux, très loin du Flaubert clinique qu'on connaît quand il écrit Madame Bovary, bien des années après.
On va reparler dans un instant de la pièce que vous avez montée, peut-être sur l'interprétation, m'a dit C.L. Est-ce que quand on vous a proposé ce rôle d'un monde à l'autre, quand Bertrand Giampietri vous a contacté, vous êtes allé chercher chez ces auteurs-là?
Non, pas tout de suite en fait. Je me suis d'abord intéressé, j'ai d'abord observé, d'abord travaillé avec les fous, entre guillemets, et je me suis intéressé vachement tard. Je voulais un contact direct, en fait. Je voulais pas vraiment... les écrits, ça me parlait pas. J'avais besoin de les voir, j'avais besoin de les sentir.
Et pour vous, Jean-Christophe Dolé, vous qui avez écrit donc Abilify l'Éponex, une pièce de théâtre, vous l'avez écrit, vous êtes renseigné, vous avez fait un travail de documentation.
De documentation, oui, mais je suis pas passé par la littérature, en fait. Je suis passé directement par les témoignages. Moi, c'était une volonté assez forte de pas me servir du prisme d'autres auteurs, mais plutôt d'aller directement au contact des personnes en souffrance.
Alors, Jean-Christophe Dolé, parlez-nous un peu d'Abilify. C'est difficile à dire, mais je vais essayer de m'y tenir pendant toute cette émission.
Une fois que c'est fait. Alors, quand vous l'avez, vous le perdez plus après.
Abilify l'Éponex. Alors peut-être, pourquoi ce titre déjà pour commencer? Et puis vous allez nous parler ensuite de l'écriture de la pièce et de votre démarche.
Alors ce titre, ce sont deux noms de médicaments en fait. J'ai voulu prendre ce titre parce que ça sonnait bien, en dépit de la difficulté qu'on a à le prononcer. Mais en plus, je trouvais que ça mettait l'accent directement sur la volonté de faire quelque chose, d'aller dans le concret des choses, d'aller vraiment dans le réel. Et c'est ce que je voulais, moi, c'est faire un spectacle, une pièce qui parle de la folie réelle. Et c'est pour ça que je suis pas passé par de la littérature, ni même par des ouvrages scientifiques, psychiatriques. Je voulais vraiment, moi, des témoignages parce que je voulais essayer de donner l'image à des spectateurs novices de ce que c'est que qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui un fou.
Qu'est-ce que vous entendez vous-même, Jean-Christophe Dolé, quand vous dites l'image de la folie réelle? Ça signifierait qu'il y a une folie imaginaire?
Je pense qu'il y a une manière de présenter la folie qui peut aller vers quelque chose de plus romanesque, de plus...
romantique même, on en parlera peut-être dans un instant, certainement d'ailleurs.
Moi je voulais au contraire quelque chose de très pragmatique, en phase vraiment avec la réalité, même avec l'actualité. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait l'impasse vraiment sur les auteurs. Je voulais vraiment du témoignage brut.
Alors parlez-nous un peu de cette pièce, comment elle se construit, comment elle se compose et comment vous l'avez écrite. Et puis on en écoutera un extrait dans un instant.
Je l'ai écrite à la lumière de ces témoignages. J'ai d'abord récolté... lu des témoignages qui avaient été récoltés par une psychologue qui, elle, était au contact quotidien de schizophrènes. Elle m'a fait lire ses notes que je trouvais bouleversantes, très fortes, parce que c'était des mots simples pour expliquer une douleur souvent atroce, une douleur dont on n'a pas idée quand on parle de la folie, bien souvent. Et puis, au-delà de cette douleur, il y avait une poésie, il y avait une violence, il y avait tout ce qu'on aime voir au théâtre, et je trouvais que c'était éminemment théâtral. Donc quand j'ai eu ces notes en main, je me suis dit immédiatement, on doit pouvoir faire quelque chose au théâtre avec ça. Et comme j'aime bien faire des spectacles, moi, qui sont en phase vraiment avec la réalité, avec des spectacles citoyens, des spectacles concernés par les problèmes de la société, voilà, j'ai pris cet axe qui est quelle place ont les fous aujourd'hui dans notre société.
Écoutons tout de suite un extrait d'Abilify l'Éponex.
Ça commence toujours pareil. La sensation d'être touché, là, dans le dos et derrière la nuque. Et puis... je sens la lame du scalpel remonter jusque-là. Et alors tout mon cerveau s'ouvre par derrière et ça libère toutes mes pensées. Elles sont à l'air libre. Après, je sens ma peau s'ouvrir dans le dos jusqu'aux fesses. Comme un poisson qu'on vide, vous voyez ?
Un extrait d'Abilify Léponex, c'est vous-même hein, qui interprétez l'un des personnages, Jean-Christophe Dolé. Donc on entend le texte que vous avez écrit. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la mise en scène, de la sonorisation particulièrement qu'on entend dans le fond?
Alors, je voulais essayer de plonger le spectateur dans une atmosphère aussi, parce que je voulais que ce spectacle soit aussi esthétique. Je voulais pas que du témoignage brut, je voulais aussi de la beauté dans ce spectacle. Donc esthétiquement, sur la scène, il y a des très belles lumières, il y a une très belle scénographie avec des bâches coupées en lambeaux. Et il y a aussi une atmosphère sonore auquel je tiens beaucoup, parce que c'était pour moi le moyen de créer un vertige, de créer un fourmillement, le fourmillement de l'esprit humain quand il entre dans des phases délirantes.
On en entend un extrait derrière. Vous avez particulièrement travaillé sur la sonorisation de la salle, effectivement, pas uniquement sur les sons, mais sur la façon dont ils sont perçus par le public.
Oui, ça, j'ai travaillé avec une personne spécialiste en la matière qui s'appelle Michel Berthier et qui est quelqu'un qui non seulement a travaillé sur la création des nappes sonores, mais aussi sur la diffusion. C'est-à-dire que je voulais vraiment créer un sentiment de vertige, de tourbillon, pour que les sons viennent de devant, de derrière, de tous les côtés, et que le spectateur se sente enveloppé dans cette atmosphère de folie.
De recréer une forme de confinement sonore, en quelque sorte.
Absolument, oui, c'est ça.
Le travail sur le son, sur la musique, est quelque chose de commun à peu près toutes vos créations. Arnaud Denis, vous-même, même si effectivement les textes, pour le coup, sont des textes que vous êtes allé tirer de la littérature classique,
oui.
Vous avez aussi, dans votre pièce, accordé une importance grande à la musique.
Oui, à la musique, bien sûr. Elle s'accorde avec les textes classiques. Ce sont des musiques... Il y a un mélange. Il y a des musiques de films. Par exemple, du film Les Autres, d'Alejandro Amenábar. Il y a le Requiem de Verdi. Enfin, c'est des choses assez... On est effectivement plus dans la folie romanesque, je dirais. Mais à quel point peut-on dire qu'elle est plus ou moins réelle, puisqu'elle est écrite par des auteurs comme Maupassant, qui a quand même fini à la maison du docteur Blanche. Donc ce sont des histoires. L'autre est Amon. À quel point peut-on dire qu'il était fou ou pas? Voilà, ça, ce sont encore des questions qu'il faudra aborder en prenant le temps de le faire. Mais oui, il y a une grande importance dédiée à l'ambiance sonore aussi et à l'esthétique. C'est vrai que je repense à ce que vous venez de dire. La folie est une matière brute, mais c'est bien de lui laisser une part de beauté. On reste dans l'esthétique quand même, puisqu'on donne quelque chose à voir.
Quel est le point de départ de votre démarche, Arnaud Denis? Si je ne me trompe pas, j'ai lu quelque part que vous avez fait ce spectacle en dehors de votre troupe pour vous recentrer sur vous-même.
Ouais, bah c'est-à-dire que depuis 6 ans, je dirige une compagnie donc qui s'appelle Les Compagnons de la Chimère, et j'ai monté des pièces avec de nombreux comédiens, puisqu'on était 12 sur scène là dans Les Femmes Savantes la saison dernière, et j'avais besoin effectivement de me recentrer, de redécouvrir le partenaire essentiel qu'est le public. Quand on joue seul en scène, on ne joue jamais vraiment seul, puisque tout monologue est un dialogue avec soi-même ou avec le public. Et j'avais besoin de redécouvrir cette intimité-là avec des textes qui sont des vraies partitions d'exigences. Et bon, c'est un spectacle que je trimballe en moi depuis 5-6 ans. Et
il a évolué. Pourquoi la folie, en fait? Pourquoi vous êtes attaché à ce thème-là?
Parce que c'est un thème qui m'a toujours fasciné. Je ne peux pas m'empêcher, quand je suis dans le métro et que je vois quelqu'un qui est un petit peu à côté, enfin, je ne sais pas de quel droit on peut dire quelqu'un est fou ou ne l'est pas, mais je me suis toujours arrêté pour observer. Parce que quelqu'un qui est plongé dans un monde un peu parallèle comme ça, qui a une perception de la réalité telle qu'on la conçoit un peu différente, ça m'a toujours fasciné. Donc je reste perpétuellement spectateur de ça. Et ce qui me fascine, ce qui m'a toujours fasciné au-delà de la folie elle-même, c'est la folie qu'on porte tous en nous et vers laquelle on peut basculer finalement à n'importe quel moment.
Quand on fait le choix de représenter, de mettre en scène la folie, c'est forcément pour aller interroger les limites de celles du spectateur, la différence entre la normalité, cette ligne de crête un peu ténue qui sépare la démence de la normalité, entre guillemets.
Oui, c'est une tentative de définir cette ligne, en tout cas. Moi, je sens ce spectacle-là que je joue en ce moment, donc au Lucernaire, je sens dès le début du spectacle que le public est assez tendu, parce qu'il y a quand même une gêne, il y a une peur aussi. Et puis, à certains moments du spectacle, ils finissent par rire pour s'échapper un peu, puisqu'il y a des textes plus légers, comme Karl Valentin, c'est un auteur de cabaret allemand, donc là, on est dans une folie douce, plus légère, ça permet d'étendre un peu l'atmosphère. Et c'est drôle, parce que l'autre soir, au Lucernaire, c'est le gérant du restaurant qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous leur faites ?» Parce qu'à la fin du spectacle, ils sont complètement abasourdis. Je leur ai demandé s'ils voulaient manger quelque chose. Et les spectateurs m'ont dit « Non, non, on sort de autour de la folie. Là, on prend un petit temps. » Mais ça m'a fait très plaisir parce que, quelque part, ils mettent un temps à en sortir. Je sens tout de suite, quand j'attaque le spectacle, qu'ils sont dans cet état de gêne, de peur, mais d'empathie.
Extrait de Autour de la folie, mis en scène par Arnaud Denis.
Outre que cet être extérieur nous échappe par ses propriétés inoubliables. Tu défends
tu toi-même la valeur des mots dont tu te sers.
Je me calme, voilà.
Attends !
Voilà ma confession, docteur. Dites-moi ce que je dois faire. Docteur ?
Un univers assez noir, a priori. Alors, c'est difficile parce que ce sont des extraits d'une bande-annonce qu'on a mis ensemble puisqu'il n'y avait pas de captation du spectacle.
Oui.
Cette densité, cette noirceur, vous la revendiquez complètement, Arnaud Denis ?
Oui, absolument. Là, c'est vrai que dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est plus des onomatopées. Bon, il y a une certaine violence, je dirais. C'est vrai. Après, on passe par un tas de couleurs différentes. Il y a... j'ai tenu à ce qu'on entre dans la folie par le biais de la raison. Par exemple, avec le texte de Maupassant, Lettre d'un fou, où il explique à son médecin que, en fait, on dépend des cinq sens, le toucher, l'ouïe, l'odorat, et que si on avait un sens en plus ou en moins, on découvrirait ce qu'on appelle le surnaturel. Voilà. Mais donc, on entre dans la folie à travers la raison. Et j'ai choisi aussi un extrait d'un documentaire d'un patient réel qui s'exprime, parce que j'ai tenu à ce que ce ne soit pas que romanesque, là aussi. Donc je dis un témoignage d'un schizophrène américain qui s'exprime avec un journaliste.
Angela Laurier, des témoignages réels dans le spectacle que vous avez monté, J'aimerais pouvoir rire. Il y en a, puisque vous avez construit ce spectacle autour de votre frère qui lui-même souffre de schizophrénie et qui était interprète en partie dans votre spectacle. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ?
Je commencerai au départ, moi. J'ai 6 ou 7 ans, j'attends le bus scolaire et j'ai une pensée comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais... Et je me disais, on est différents. Mais je pensais à la famille. Je pensais à la famille, on est différents. Puis il y avait Dominique aussi qui attendait le bus avec moi.
Dominique, votre frère.
Mon frère, Dominique. On est différents, c'est mon premier questionnement. Après, quand il a été étiqueté schizophrène, j'ai voulu comprendre c'est quoi la schizophrénie. C'est vrai que toutes les lectures, on ne s'y retrouve pas. Et Dominique, qu'est-ce que nous, on essaie de traduire dans nos écrits d'artistes et tout, c'est lui, il s'est parlé de du ressenti de il sait très bien décrire ses sensations. Ses sensations et ses visions. Il y avait des visions, il y a toujours eu. Pour moi, il n'a jamais été malade. Dominique a toujours. Il a toujours été comme ça. Mais on était très proches jusqu'à sa maladie où. Moi, j'ai coupé les ponts et le spectacle, j'ai voulu reprendre un lien avec lui. J'ai voulu. Et c'est moi qui ai le plus changé. C'est moi qui. C'est un face-à-face. C'est parce que Dominique aussi. Il ne represse pas, il a tout. Il vit au jour le jour, le moment présent. Il n'y a pas d'appréhension, c'est quelqu'un qui vit le présent. Et voilà, nous, avec tous les contrôles qu'on a, voilà, c'est ça qui. Et moi, c'est moi qui ai le plus changé, je dis, voilà.
Mais ça, on en reparlera peut-être tous ensemble tout à l'heure de la façon dont traiter ce sujet de la folie change ou influe sur votre rapport à votre profession, mais aussi sur éventuellement sur votre vie, en tant qu'individu dans la société. Angela Laurier, j'aimerais avant toute chose que vous nous décriviez un peu en quoi consiste ce spectacle. Vous avez une formation de danseuse contortionniste.
Oui.
Que vous nous racontiez un peu ce que vous avez mis en scène.
J'ai fait une carrière en cirque, moi. J'ai commencé très tôt en cirque. D'abord, je faisais théâtre de rue. J'étais petite gymnaste. Après, j'ai fait théâtre de rue et ça m'a amené au cirque à les prochaines créations, première création du Cirque du Soleil au tout début. C'est pas ce que c'est maintenant.
Et J'aimerais pouvoir rire.
Voilà, j'aimerais pouvoir rire.
À quoi ressemble ce spectacle et comment vous l'avez construit?
Ça part de mon mal-être à moi, des questions à régler avec moi-même pour pouvoir créer. Moi, je me suis toujours dit. Parce que j'aimais pas vraiment le cirque, c'est parce que j'avais des dons, des aptitudes et tout, et puis j'en avais marre du cirque, des petits numéros de 8 minutes de performance. Je voulais trouver la parole, je voulais sortir de ça. Et j'ai eu besoin de retrouver mon frère, de cette communication qu'on avait aussi.
Et donc le spectacle commence.
Voilà, ça part de là.
Ça part de là, mais sur scène en fait.
Mais il y a eu des versoirs avant. J'aimerais pouvoir rire, c'est la suite parce que. Alors, c'est les retrouvailles en direct des versoirs. Il faut commencer par là. Parce que...
C'était le premier spectacle que vous aviez monté avant. On en dira peut-être un mot tout à l'heure. J'aimerais juste, pour les auditeurs, qu'on se rende compte, puisque dans votre spectacle, donc, il y a effectivement c'est de la danse. Au début, vous êtes... Racontez-nous un peu à quoi ça ressemble, puisque il y a des projections du discours de votre frère. Votre frère intervient aussi sur scène à quelques instants. Est-ce que vous pouvez nous le décrire rapidement?
Oui, ça part des images de Dominique Jeune au début de sa maladie. On dit maladie. Que ma sœur avait tourné, qui est comédienne. Je suis partie de ces images-là. Voilà. De Versoir, c'était un road movie filmé en direct. Et ça, c'est le retour dans le passé. Avec les photos de famille, mon père nous prenait beaucoup en photo.
Il y a beaucoup de photos dans
votre
spectacle, effectivement.
Beaucoup de photos. La famille qui grandit. Hein. J'ai 8 frères et sœurs. Et voilà, c'est le couple, la rencontre, les parents, la famille qui grandit. Voilà.
Beaucoup de photos, donc de la danse, il y a de la peinture. Votre frère, je le disais, intervient sur scène. Et puis, il y a ces extraits vidéo où il parle face à la caméra. On va en écouter un extrait.
Alors, ça fait 12 ans que je suis suivi en psychiatrie, que je reçois des injections à tous les mois, puis... J'ai jamais pu me libérer de ça. Là, je vais prendre des cours de peinture et puis j'espère que ça va m'aider. Mais j'ai 33 ans puis je sais pas vraiment ce que je vais devenir.
C'est le témoignage de Dominique. Comment est-ce que vous l'avez intégré à la scénographie?
Alors, lui, il aime la musique.
Angela Laurier.
J'ai trois musiciens que j'ai connus à Cherbourg, où j'ai ma compagnie, où j'ai créé, suite à ce projet, j'ai créé ma compagnie. Et voilà, avec la musique qu'il aime, la batterie, la guitare, et lui au micro qui slamait,
C'était important de faire intervenir plusieurs formes d'art à l'intérieur de ce spectacle, c'est-à-dire votre art contorsionniste, la danse contemporaine, puis de la projection vidéo, de la peinture même, vous faites de la peinture.
J'ai fait rencontrer des gens là sur place, Christelle Lefebvre aussi qui a fait les arts appliqués, qui l'a ramené à la peinture. Puis c'est des rencontres, Dominique c'est par les rencontres, c'est les rapports aux gens, il accroche, puis il a envie de les connaître, et ça fait son chemin. Mais voilà.
Et un dernier mot rapidement avant de passer à Malicelle. Diriger votre frère, ça a été une expérience compliquée à mettre en place.
On ne peut pas le diriger. Dominique, il vient comme il le sent. Il y a toujours, on était en résidence, il y a toujours, il peut rentrer, sortir comme il veut. Et quand il le sent, il va au micro. Il y a toujours, et on prépare toujours le contexte pour lui, voilà, s'il veut venir ou non. Et il y a ma sœur, Lucie Laurier, qui est comédienne, une autre de mes sœurs, pas celle qui a tourné les images, que j'ai demandé de venir, comme on était sur scène tous les deux, pour qu'elle, il avait envie qu'elle soit là, et puis c'est grâce à elle qu'on a pu faire la suite de Déversoir tous les deux. Et danser, il danse sur scène aussi. Il danse.
Madicelle, vous avez interprété pendant une longue période. Hein, c'est un spectacle qui a tourné 8 ans, c'est ça?
Ouais, pendant presque 8 ans.
Voilà, d'un monde à l'autre. Parlez-nous un peu de la façon dont vous êtes rentrée dans ce projet et du personnage que vous avez incarné.
Alors, j'ai rencontré Bertrand un peu par hasard dans une soirée qui n'avait rien à voir avec Bertrand Gianpietri, donc le chorégraphe d'un monde à l'autre, moi j'étais comédien, enfin petit comédien à l'époque. Et il m'a pris pour un danseur, donc il m'a proposé de danser pour lui. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Il m'a dit, mais si, viens, passe l'audition, on verra. J'y suis effectivement allé 3 jours après. Ça a duré 1 heure, j'ai été pris tout de suite. Et lui cherchait des comédiens, il cherchait un petit peu des novices, parce qu'il est un petit peu dans le défi tout le temps, il aime apprendre aux gens. Et du coup, il m'a proposé, il m'a donné une variation pendant 1 heure, on a bossé là-dessus. Et ensuite, il m'a expliqué un petit peu le projet. Il m'a dit, voilà, va falloir que tu deviennes fou, entre guillemets, enfin, que tu sois un petit peu autiste, que tu te trouves un personnage, parce que c'est un spectacle qui existait déjà. D'un monde à l'autre existait déjà depuis 2 ans, et il voulait intégrer d'autres persos, parce qu'il y avait 7 persos sur scène, il en voulait 9, 10, 11, enfin, il voulait augmenter. Donc, c'est un petit peu le hasard, en fait.
Et en quoi consistait exactement ce spectacle d'un monde à l'autre?
C'était, on va dire que c'est 1 heure, 1 heure et quart, en fait, dans une salle de repos, tout simplement. Donc le spectacle commençait avec une scène de vie relativement basique où on était normaux, soi-disant. Donc on passait sur scène, on avait chacun des personnages, une scène dans un parc par exemple, enfin, c'était vraiment très basique. Ça durait quelques minutes et puis d'un coup on allait se changer en coulisses, on revenait dans les 15 secondes changer et complètement barge en fait, et les gens pensaient presque que c'était d'autres personnages, que c'était d'autres comédiens qui arrivaient. Donc il voulait vraiment montrer qu'on pouvait passer de ce monde-là à l'autre en 5 minutes, quoi, vraiment. Donc le spectacle commençait comme ça. Et ensuite, c'était vraiment une heure juste d'observation, en gros.
D'observation, de chorégraphie, de texte.
Oui, il n'y avait pas de texte. On avait chacun nos variations. Donc on avait une variation chacun. Et entre les variations, c'était très théâtralisé. Pendant justement ces interludes où il n'y avait pas de musique, où c'était vraiment que nous sur scène, c'était un peu improvisé quand même. Il voulait qu'on se lâche, il voulait qu'on soit ensemble, qu'on ait peur les uns des autres, qu'on soit tout seul dans notre coin. Enfin voilà, il voulait juste une observation de ça.
Et comment est-ce qu'on revêt ces habits pendant une aussi longue période d'un personnage autiste? Comment est-ce que vous avez travaillé? Comment est-ce que vous avez pris les habits de ce personnage? Comment est-ce que vous les avez laissés facilement, difficilement?
On s'en rend pas vraiment compte, en fait. Moi, quand j'ai commencé, j'ai absolument voulu voir des malades. Donc je connaissais déjà un peu parce que j'avais fait des pseudo-stages dans un centre d'équithérapie. Donc j'avais eu accès à des autistes pendant pas mal de temps. Donc là, je suis allé revoir. On a travaillé en collaboration avec le professeur Escande, qui était le professeur à l'hôpital Marchand de Toulouse. Donc voilà, il nous a donné accès à ces patients, entre guillemets, où on a pu bosser avec eux, leur donner des pseudo-cours de danse, qui n'étaient pas des cours de danse, on est d'accord. Voilà, beaucoup d'observations, et puis après, on se lâche, on essaie de s'oublier, surtout. Moi, je me suis oublié, vraiment, tout de suite. Et après, c'est dur de s'en séparer, parce que je me retrouvais chez moi, comme un autiste devant ma télé, à fumer des clopes, à me balancer sur ma chaise. Enfin, c'était vraiment...
Il y a une porosité, vraiment, dans le rapport du comédien à ce type d'interprétation-là? Médicelle,
ou pour moi,
Arnaud
oui,
Denis, Jean-Christophe Dolé? Une porosité peut-être, Jean-Christophe Dolé?
Ouais, moi j'ai une expérience quotidienne pendant tout le mois de juillet, puisqu'on a joué ce spectacle tout le mois de juillet. Les gens nous disaient souvent, on voit au salut que vous n'êtes pas encore revenu tout à fait. Et c'est vrai, on mettait un petit peu de temps à revenir. Mais c'était, une sorte de, par respect vis-à-vis de nos personnages. Moi, je sais que j'avais...
Madicelle, vous confirmez
oui, tout à fait,
rapport-là.
C'est effectivement presque ça, ouais.
Ouais, on a presque pas envie de dire aux gens, regardez, c'était une blague, on est des comédiens. On a tellement incarné les personnages qu'on a presque des scrupules à dire que c'était faux, quoi.
Arnaud Denis?
Moi, je ne peux parler qu'en ce qui me concerne, mais je sais que, en sortant de scène, moi, je suis très détendu, et les gens me demandent, mais après tout ça, t'es pas un peu tendu? Non, au contraire. Moi, j'aime beaucoup la phrase de Michel Bouquet quand il dit que c'est un poids dont on se libère. Le personnage, on se libère de ce poids, je le laisse au porte-manteau comme un costume. Ça ne veut pas dire que le moment venu devant le public, forcément, je vais aller chercher dans des zones de souffrance qui sont inhabituelles, mais en fait, ça n'est pas vraiment douloureux pour moi, parce que je le fais face au public. Et en plus, je dirais que c'était douloureux plutôt pendant les répétitions, parce que j'étais tout seul. Mais à partir du moment où le public est là, pour valider ça, même quand on est dans un état douloureux, on en est état de partage, donc de bonheur.
Madicelle?
Oui, moi je dirais que c'était pas vraiment un personnage que j'allais chercher. Enfin, en tout cas au début, j'allais chercher ce personnage-là, mais je suis devenu ce personnage. Enfin, ce que je jouais, c'était presque l'autiste que j'aurais pu être, en fait. Mmh. Donc c'était plus, c'était naturel. C'est devenu naturel, en fait, au bout d'un moment.
On va reprendre cette conversation dans un instant après la première pause musicale de l'émission aujourd'hui. La bande-son de l'été de Déjeuner sur l'herbe rend hommage à Alain Leprest, chanteur parolier qui s'est suicidé hier à l'âge de 59 ans. Alain Leprest devait sortir un nouvel album d'ici la fin de l'année et se produire sur la scène de la Cigale. Extrait de son album Voce a Mano qu'il a enregistré en 1992 avec Richard Galliano. Le morceau s'appelle La meilleure de mes copains.
On s'entend bien, on s'entend comme les deux hémisphères de la même pomme. Les coups de tabac, les poignées de main, les larmes, on met tout en commun. On les colle, on est siamois, on les quasiment toi et moi. Un cœur entre deux tranches de pain, t'es la meilleure de mes copains, de mes copains. T'es la meilleure de mes copains, de mes copains. T'es la meilleure de mes copains. On s'entend bien, on s'entend comme à New York et son chewing-gum. Sans se mâchonner, sans se faire de bulles, sans s'abîmer les mandibules. On a l'amitié mitoyenne, l'adresse du ciel est la tienne. C'est la même sur mon calepin, t'es la meilleure de mes copains, de mes copains. T'es la meilleure de mes copains, de mes copains. T'es la meilleure de mes copains. On s'entend bien, on s'entend comme à un fond une jolie somme. Qu'a pas besoin de courir les planques, ni de ronfler sur un compte en banque. Deux balles pour la machine à sous, deux croissants beurre et de supides sous. Deux paquets de brunes sous notre sapin. T'es la meilleure de mes copains, de mes copains. T'es la meilleure de mes copains, de mes copains. T'es la meilleure de mes copains.
Alain Leprest et Richard Galliano, la meilleure de mes copains sur l'album Voce a Mano. Déjeuner sur l'herbe sur France Culture, on va reprendre la suite de notre conversation autour des représentations scéniques de la folie, de la mise en scène au théâtre ou en danse. Avec, j'aimerais revenir avec vous puisque dans la première partie de cette discussion, vous avez évoqué les uns les autres différents points et notamment tout à l'heure Jean-Christophe Dolay, vous parliez d'un théâtre citoyen. On a entendu un peu au début les paroles de Michel Foucault. Je parlais moi-même du contexte d'actualité, de la réforme de la psychiatrie. Est-ce que avoir un propos artistique sur la folie, c'est strictement indissociable d'un propos politique ou d'un propos social, selon vous? Peut-être pour commencer, ouais, oui. Angela Laurier.
Oui, tout à fait, moi je trouve. Et puis c'est sont liés à ça les problèmes économiques aussi. Oui, et social, oui. Parce que les indemnités, les prises en charge et tout ça, c'est énorme. Et c'est terrible aussi parce qu'il n'y a pas les moyens. Comme je vois, comme ça a régressé aussi, Dominique, les soins comme maintenant en psychiatrie. Et en ce moment, il est en prison et il ne devrait pas être là. Mais pour des conneries, parce qu'il plaide coupable, parce que voilà, là, il a envie du monde carcéral. Mais
c'est-à-dire qu'on revient à cette conception de la psychiatrie comme un enfermement, comme vraiment une psychiatrie asilaire, une séparation de ceux qui sont considérés comme fous de la société. Ça fait partie de votre propos, Jean-Christophe Dolay?
Oui, ça fait partie de mes premiers moteurs pour construire ce spectacle. C'est évident que dès qu'on commence à s'interroger sur le sujet, tout de suite, on est confronté à ça. Tout de suite, on est confronté aux conditions d'hébergement des malades dans notre pays. Je peux parler que de ce que je connais. Mais c'est évident qu'il y a énormément de choses à faire et à dire là-dessus. Il y a énormément de murs à abattre, énormément d'idées reçues à combattre aussi. Parce que voilà, on ne peut pas parler de la folie aussi légèrement que ça, quoi.
Madisaël, peut-être, quand on incarne, vous avez à l'esprit que vous donnez à voir quelque chose qui est caché derrière des murs, que ce que vous transmettez au public, ça n'est pas juste un message artistique, que c'est un message plus complexe.
Oui, évidemment. Moi, j'étais vraiment dans le... J'avais l'impression de donner une espèce de liberté à cette folie-là, à ce personnage-là. Parce que quand j'étais un petit peu, enfin, je suis revenu à ce moment-là quand j'étais un peu plus jeune, où je pensais que les fous étaient pas, je pensais que les fous c'était nous en fait. Je pensais que c'était eux qui avaient raison d'être en dehors de tous ces codes sociaux. Enfin, ils étaient vraiment ils sont en marge de la société. Et pour moi, c'est eux qui avaient raison. Donc, je voulais montrer aussi cette liberté, montrer qu'on n'est pas forcément mal quand on est fou. Montrer qu'on est bien aussi quelquefois.
Quand on est dans une approche comme vous l'êtes, Arnaud Denis, d'une approche peut-être plus textuelle, plus romantique, plus romanesque, est-ce qu'il n'y a pas dans cette démarche là aussi une certaine volonté de jouer avec le fantasme de la folie? Vous en parliez, vous disiez que c'était un thème qui vous hantait. Est-ce qu'il n'y a pas dans la société, chez les citoyens, un fantasme du fou comme une figure romanesque, maudite?
Absolument. On parlait du contexte politique ou social, évidemment qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Mais j'avoue que c'était pas mon premier but, évidemment. Bien sûr, je voulais être dans le concret, mais pour moi, c'était surtout une question de patte humaine, comment humainement. Après, le reste en découle, évidemment. Tout le contexte, ça n'est pas dissocié. Hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est que quand le public a payé sa place, il est là, il reste. Il est obligé de regarder ça, de regarder ce qu'on lui présente. Donc il ne peut pas faire comme dans la rue, passer son chemin. Éventuellement, il peut sortir de la salle si ça devient trop... Voilà. Mais il reste. Donc,
c'est des choses que vous avez rencontrées beaucoup, des refus de voir, des refus de se confronter à ce que vous représentiez, à ce que vous mettiez en scène, Madicéa.
Avec D'un monde à l'autre, oui, ça nous arrivait plusieurs fois, en fait, les gens qui sortent.
Ça se manifeste par des gens qui sortent.
Ouais, oui, les gens.
Les gens peuvent sortir aussi parce qu'ils aiment pas le spectacle.
Ouais, enfin, moi, je me souviens. Oui, évidemment. Mais, justement, sur le coup, on continue à faire le spectacle, et puis après, on se pose des questions. Mais il s'avère que ces gens-là nous attendaient toujours, par respect aussi, parce qu'on était là. Ils nous attendaient toujours derrière pour s'excuser presque. Enfin, je me souviens d'une dame qui a crié en plein milieu du spectacle et qui est sortie. Et elle nous a attendus. Et à la fin, elle nous a expliqué qu'elle avait passé l'après-midi avec son fils qui était dans un institut et que c'était trop fort pour elle, c'était trop réel en fait. Donc elle ne pouvait pas.
C'est vrai que ça fait remuer le spectateur.
Vous avez rencontré ce type de réaction aussi dans votre spectacle?
Ils ont besoin de le dire, ils attendent pour le dire aussi. Oui, ils ont vraiment besoin de venir te dire, comme ça les a heurtés. Moi, je trouve ça bien.
On parlait, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, Angela Laurier, c'est moi qui ai le plus changé. Oui. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on met en scène, lorsqu'on interprète, lorsqu'on endosse ce costume du fou, on est dans ce que vous appelez vous-même, Angela Laurier, un rituel de guérison individuelle?
Oh, je sais pas, c'est vous, guérison de quoi?
Je l'ai sorti d'une interview, donc c'est vous qui l'avez dit dans ces termes-là.
Ah bon?
Vous avez dit un rituel de guérison.
Ah, peut-être, pour faire mieux, j'ai peut-être écrit.
Mais je suis assez d'accord avec ça, cela dit.
Mais tout à fait, on est toujours malade. De toute façon, moi, je sais pas quand je suis bien. Quand on est bien, on en a marre, on a envie d'aller mal aussi. Et Dominique, c'est ça, c'est le besoin des sensations fortes des moments aussi. Puis bon, avec la médication et tout, arrêter les pensées, arrêter de... Tu vois, la pilule qui arrête de penser, on le sent au début dans son premier... on sent qu'il est médicalisé, comment il parle et...
Quand il arrive, c'est-à-dire qu'il a du mal à s'exprimer, que son esprit ne fonctionne pas.
Oui, voilà.
Là, pour le coup,
il y a toutes les pilules pour ci, pour ça.
Sur cette notion du rituel de guérison, Jean-Christophe Delay.
Ouais, je sais pas si je me suis guéri ni de quoi, mais en tout cas, j'ai changé. Oui, ça c'est évident. J'ai changé et assez en profondeur en plus. C'est-à-dire que je suis plus le même depuis que j'ai travaillé sur ce sujet. C'est évident, le sujet m'a dépassé, le sujet m'a fait grandir et ça a dépassé de très très loin le cadre du théâtre.
Et un petit mot très rapide pour finir parce qu'on est très en retard, dans ce rapport-là du metteur en scène au personnage du fou, du comédien, de la scénographe, est-ce qu'il y a une place quand même dans le public ou c'est quelque chose qui se joue vis-à-vis de vous-même? Est-ce que vous accordez une place au public dans ce rapport que vous-même entretenez en tant qu'artiste avec la folie?
Ah ben c'est un peu
les gens se reconnaissent, les gens aussi, ils se retrouvent là-dedans aussi.
Bah forcément qu'on leur accorde une place puisqu'on travaille pour eux. Donc si on le faisait que pour nous, ce serait plutôt grave, je pense.
Vous seriez un peu fou de le faire.
oui, on le ferait tout seul, mais on ne peut pas le faire tout seul. On est là pour le donner à quelqu'un, c'est quand même la base de notre métier, c'est ce que je trouve.
pour partager un germe de folie.
Ouais.
Et une émotion.
Et une émotion. Oui. Merci à tous les quatre d'être venus déjeuner sur l'herbe avec nous. Votre actualité, vos actualités respectives, Jean-Christophe Dolé.
Eh bien, moi, ce sera Abilify les Ponex pendant un bon moment, je pense, puisqu'on va partir en tournée cette saison et puis la saison qui vient. Voilà, et peut-être à Paris, ça, rien n'est encore sûr.
D'accord. À partir de la tournée cet automne?
Mars.
Ouais. Ouais, non, l'année prochaine, d'accord.
Ouais, ouais, attendre. À moins qu'il y ait des dates qui se libèrent d'ici là. Qui s'ajoutent d'ici là, ce qui est possible.
Arnaud Denis, Autour de la folie.
Moi, je joue donc Autour de la folie au Théâtre du Lucernaire à 20h, du mardi au samedi, jusqu'au 16 octobre, avec des textes de Maupassant, Flaubert, Lautréamont, Michaud, Carl Valentin.
Angela Laurier.
J'aimerais pouvoir rire. On reprend en novembre à Montréal. À l'usine C et à Dole le 29 novembre à la scène du Jura, la scène nationale du Jura.
Et alors, Madicelle, d'un monde à l'autre n'est plus représenté, mais est-ce que vous avez une actualité des endroits où on peut aller vous voir?
Je suis là, je bosse avec des amis sur une performance qui s'appelle Accord perdu, qui se jouera le 10 septembre dans un atelier galerie à Saint-Paul, donc sur Paris. Donc ça s'appelle Accord perdu, on est plusieurs, on est 6 je crois, c'est un peu cabaret, opéra, enfin il y a du lyrique, il y a de l'électro, il y a de la danse, il y a du théâtre. On travaille sur les limites du corps de la femme.
Et on mettra tout ça sur le site de l'émission Déjeuner sur l'herbe sur franceculture.com.